Oui, Arnaud, ta réflexion me fait penser en miroir justement à ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire aujourd'hui, enfin tout un mouvement d'urbanisme transitoire où justement la société civile en fait s'empare de lieux qui sont un peu en déshérence, en friche aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore justement su décider comment on allait transformer. A priori, un patrimoine qui n'est pas forcément encore reconnu non plus, et qui est aussi dans une forme de patrimoine transitoire où on ne décide pas du haut, effectivement, si on va le garder ou si, et qu'est-ce qu'on va en faire, mais on teste en fait des mises en situation, par des mises en situation et de l'expérimentation, en fait, finalement, sur des temps quand même relativement longs. Moi, je pense aux grands voisins, effectivement, à Paris, mais il y a d'autres cas aujourd'hui dans l'Europe entière. Enfin, je connais plutôt les cas européens, où justement, en fait, il est question de ne pas décider de la valeur d'emblée, mais c'est de la mettre à l'épreuve sous des formes d'urbanisme dit transitoire, en fait. Et donc, peut-être que derrière, il y a aussi l'idée du patrimoine transitoire. Parce qu'en fait, la vraie question, enfin, je pense, qui se pose dans l'articulation entre patrimoine et planification, c'est finalement à quel moment on va décider du devenir en fait, en termes d'usage et d'un lieu patrimonial. Parce qu'on peut très bien, enfin, garder du patrimoine pour du patrimoine, ça n'a pas de sens. En fait, le sens, c'est quels nouveaux usages on donne à ces lieux-là et comment on définit ces nouveaux usages, c'est bien la difficulté en fait de cette articulation. Et, enfin, moi, je sais que sur la ville de Grenoble, en fait, la question du patrimoine, elle se pose en ces termes-là aujourd'hui. C'est plus justement, pourquoi on conserve, pour en faire quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et la vraie question, c'est ça, en fait. Et là, on n'a pas encore beaucoup d'expertise sur ce sujet-là, en fait. On sait pourquoi on conserve pour l'intérêt historique, etc. On ne sait pas pourquoi on conserve pour un futur usage, pour les générations de futures. Et ça, c'est des démarches quand même assez nouvelles en France. Elles ont moins de 10 ans, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est une piste intéressante à creuser.
On pourrait avoir un peu, justement, le patrimoine de projet, en fait. C'est amusant, la notion de patrimoine de projet.
Les agences d'Urba avaient sorti une petite publication il y a quelques années sur le patrimoine territorial en projet. Je crois que ça s'appelait comme ça.
Et demain, il y a Bordeaux, patrimoine métropolitain en projet.
Eh bien, on se précipite dans le train, vite.
Maria, vous voulez prendre la
parole. Je veux dire une autre chose. À mon avis, le plan, c'est un outil nécessaire, mais insuffisant. Les planifications traditionnelles, parce que, je l'ai dit, les plus plans locaux d'urbanisme, c'est un outil pour travailler sur patrimoine dans la cité, dans la ville. Et la ville, c'est un phénomène social complexe. Nous avons nécessité de transformer la pratique du plan. C'est une question que dans l'avenir, n'en finit pas d'arriver. L'ancien, planification traditionnelle, tarde à mourir, à mon avis.
Donc on est dans un moment de changement. Myriam, vous voulez intervenir?
Oui, pardon, excusez-moi. Signaler, effectivement, je pense que la planification, c'est une grande chance pour le patrimoine. Voilà, c'est parce que le patrimoine est en train de changer, n'est plus effectivement un objet symbolique, mais un héritage. Et ça, je pense que l'intervention du Canada a été particulièrement éloquente là-dessus. On est dans une évolution de fond où on passe de la notion d'objet emblématique à une valeur. Et cette valeur, eh bien, elle a un lieu, elle a un cadre, et elle est bien évidemment évolutive, puisque c'est une valeur partagée par les habitants qui l'ont créée. Donc on est en train de changer totalement, enfin, et on le constate dans toutes les expériences qu'on a pu voir, c'est la même évolution partout. Alors avec des degrés différents, mais c'est la même évolution. Et ça, c'est une grande chance pour justement continuer à entretenir notre mémoire. Parce qu'une mémoire faite de grands monuments, bon, c'est sympathique, mais en réalité, ce n'est pas ça la réalité de notre mémoire. La réalité de notre mémoire, c'est aussi et surtout notre quotidien et les éléments de notre cadre de vie qui participent à notre identité et que l'on construit collectivement. Et ça, il n'y a que l'outil de la planification qui puisse effectivement le théoriser et le maintenir et en conserver la notion sur le moyen et long terme. Ça veut dire donc concrètement, je crois que la planification, mais une planification peut-être renouvelée, est une chance. Hein. Bon, alors maintenant, quand on parle de planification, est-ce que c'est la même chose que dans les années 70 ? Non. Là aussi, on a énormément évolué. La planification, maintenant, c'est un objet, c'est effectivement un territoire en projet. C'est un urbanisme en projet, en permanence, où justement la notion de projet est fondée à partir d'une meilleure connaissance de l'existant. Et dans cet existant, on a quoi ? La valeur patrimoniale, qui est un des éléments. Donc, cette planification qui est une planification maintenant évolutive de projet, qui est le reflet de quoi ? Sinon d'un projet de société, tout simplement. C'est la société qui s'organise de son futur. Et maintenant, la planification est en train d'intégrer dans l'organisation de son futur, non pas un futur en rupture avec l'existant, mais un futur en lien avec l'existant. Donc, encore une fois, la planification est une chance pour le patrimoine actuellement. Et enfin, pour le troisième point, c'est que au-delà de cette chance, on voit aussi que dans les métiers, tout à l'heure, on faisait le tour, avez-vous des architectes du patrimoine chez vous ? Bon, ben moi, j'ai envie de vous poser la question, avez-vous des paysagistes ? Parce que les paysagistes deviennent maintenant des formations aussi importantes, sinon plus importantes que les architectes du patrimoine pour traiter du territoire. Quand je parle paysagiste, c'est les géographes, enfin, tous ceux qui traitent du territoire. Alors il y a aussi des architectes urbanistes qui traitent du territoire. Mais il y a quand même des formations spécifiques et des paysagistes maintenant qui sont formés à la dimension historique du paysage et qui ont une façon d'aborder le patrimoine ou ce qu'on appelle maintenant le paysage culturel, c'est le même principe en réalité, mais qui ont une formation qui leur permet justement d'aborder cette notion d'abord, de grande échelle, d'héritage territorial. Et ces paysagistes, il me semble que c'est des personnes et des professions qui doivent être présentes à un point aussi important que l'architecte dans les paysages. Et enfin, pour terminer, et après, je laisserai la parole. On a de plus en plus de plans de paysage. Bon, on a vu que l'Italie nous a montré la voie brillamment et que, bon, en France, on commence 10 ans après à essayer de faire la même chose. Et il y a certainement dans d'autres pays européens, à travers le monde, il y a une grande culture du paysage culturel depuis très longtemps qui se formalise maintenant peu à peu dans le cadre d'un outil qu'on appelle le plan de paysage ou l'équivalent, ou des directives paysagères. Et là, ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer le futur de la planification à travers ces directives paysagères et à travers ces plans de paysage ? Voilà.
Oui, je voudrais ajouter seulement une chose. Et je retourne à ta demande, ta question sur, si j'ai bien compris, est-ce que ce qu'est la protection du patrimoine et la patrimonialisation à une échelle nationale ou internationale est plus pérenne qu'une patrimonialisation et protection à l'échelle locale. Et d'un côté, je crois que oui, peut-être, parce que on protège le patrimoine des changements politiques, et notamment dans les petites villes ou petits villages où une maire peut changer l'idée très vite, non, où les choses peuvent évoluer très vite, très rapidement. D'un autre côté, je pense qu'il faut penser à l'échelle du patrimoine et à qui le patrimoine pour qui, non? Parce qu'on a en Italie des exemples, mais un peu partout, des exemples de, je crois, de, je ne sais pas si dire, expropriation symbolique du patrimoine. Donc on a des petits villages qui sont patrimonialisés au niveau national et international, qui sont site UNESCO, par exemple, je pense à la Toscane, où les patrimoines au niveau des centres historiques, par exemple, a perdu complètement sa fonction pour la communauté locale, donc n'est plus cadre de vie, mais est seulement... on connaît bien la question, non, donc, est seulement la scène pour le tourisme international. Et donc, je pense, par exemple, à San Gimignano, qui est en Toscane, où je crois que... Je n'ai pas fait de recherche là, mais que la population locale, oui, pense que l'architecture de San Gimignano est partie de son patrimoine, mais il n'y a pas un usage local pour ces patrimoines-là. Donc la vie de la communauté maintenant existe au dehors du périmètre patrimonialisé. Et donc je me demande comment faire à éviter ça, bien sûr. Et comment penser la patrimonialisation dans le futur, parce que les patrimoines soient de la communauté locale et de la communauté internationale en même temps, non, sans cette division. Et je pense aussi au paysage de Cinque Terre, par exemple, où Cinque Terre, c'est le paysage culturel à côté à Genova. Il y a les terrasses avec les vignobles... D'un côté, là, la patrimonialisation internationale apportait aussi des notions techniques et une attention internationale très importante pour les patrimoines, parce qu'on a eu une très grande alluvione, comment s'appelle ça, inondation, non? Et les experts de l'UNESCO ont aidé les administrateurs locaux à penser comment reconstruire les villages en respectant les valeurs universelles et exceptionnelles. Mais d'autre côté, ce patrimoine-là n'est plus le patrimoine, n'est plus le paysage qui est cadre de vie de la population. Et un paysage qui est cadre de vie des Américaines qui investissent l'argent sur les petites portions de terre pour faire des vignobles charmants ou des touristes internationaux. Non? Donc, je crois que ça pose... un problème.
Pour répondre un peu, parce qu'effectivement, je connais un peu le sujet sur Cinque Terre, oui, il y a eu un regard international, mais c'est la mobilisation des habitants locaux qui ont permis la sauvegarde des quelques terrasses. Ce paysage viticole, il est en déshérence totale, en réalité, hein, totale. Et donc, c'est la ténacité d'habitants pour que ces terrasses vivent, hein, on le sait. Et alors, le regard international, c'est simplement pour les encourager et soutenir leur effort. Et forcer, et comment dire, inciter le parc à reverser effectivement un peu d'argent pour les soutenir. Voilà. Mais c'est tout, hein, c'est pas... Mais c'est vrai que d'avoir un regard international, eh bien, ça permet de renforcer la prise de conscience. Et ça permet aussi aux habitants, aux communautés, de pouvoir se revendiquer ce qui, leur a, enfin, ce qui est dans leur cadre de vie, ce qui est un élément fondamental de leur cadre de vie, de pouvoir le revendiquer face à des institutions qui, quelquefois, ne sont pas tellement intéressées à les valoriser. Voilà. Un des piliers de la Convention mondiale du patrimoine, c'est communauté. Il y a cinq piliers, dont celle de la communauté. Et l'État, bien sûr, l'institution est importante pour garantir la protection, mais en réalité, tous les projets et toutes les incitations interroge constamment la communauté, la place de la communauté et la façon dont la communauté s'empare du patrimoine qui a été qui est reconnu patrimoine mondial. Donc ça, cette notion de communauté, ça date de 1995, c'est en train de grandir et ça peu à peu ça infuse y compris en Europe.
Bon. Ce que dit m'a amené à une réaction et puis aussi à quelques commentaires. Ce qui est intéressant dans la notion de patrimoine, c'est qu'elle nous entraîne vers des choses et vers des choses qui sont des interprétations, on pourrait dire, une idéologie du patrimoine qui évolue, enfin une idée du patrimoine, pas forcément d'une façon négative, une idée du patrimoine qui évolue, mais qui aussi nous éloigne de la pratique de la planification. Donc on voit bien sur cette idée de la tension entre la réification de la communauté et en même temps le fait que cette contradiction qui est présente dans les débats, hein, sur le fait que ça serait uniquement l'État qui pourrait dire vraiment, ou l'international qui pourrait dire vraiment comment faire pour réifier cette communauté, ou même d'ailleurs sur les questions sur la mémoire, hein, sur la mémoire, sur l'identité, et comment on connecte cette idée, cette idéologie, ces réflexions sur le patrimoine, ces théories, ou le patrimoine comme valeur présent, avec les pratiques très concrètes de planification qui sont assez éloignées finalement. De l'idée d'identité locale, de l'idée de mémoire, etc. On peut très bien faire un plus sans poser la question de la mémoire locale. Ce qui m'a amené aussi à quelques réflexions sur la façon dont ce qu'on a entendu ces deux jours nous questionnait dans notre façon de regarder les instruments et de réfléchir au sein du programme PLUPAT et de ce que sont les plus. Alors, j'ai essayé de noter quelques éléments, peut-être en radicalisant un peu, et mes collègues me diront si je caricature, mais finalement, j'ai l'impression qu'on a parlé de beaucoup de choses qu'on a du mal à trouver dans les plus. C'est-à-dire que le discours, ou l'idée, ou l'idéologie du projet, de la communauté, de la mémoire, etc. Et en fait, nous, ce qu'on voit dans le plus, c'est quand même essentiellement du droit du sol, de la protection, etc., malgré cette rhétorique. Hein, donc en creux, il apparaît peut-être le fait que les plus ne sont pas vraiment ce qu'ils disent, et peut-être pas ce qu'ils disent dans le domaine du patrimoine, c'est-à-dire ne sont pas des moments dans lesquels une communauté se pose la question de quelle stratégie adopter sur les espaces anciens. Hein, puisque les moments de débat dans les plus, alors il y en a certains, bien sûr, au moment de, on peut faire plus ou moins, on peut faire l'inventaire d'une façon différente, on peut aller au contentieux parce que certains éléments ne sont pas suffisamment protégés et d'autres, on peut changer de méthode, etc. Il n'en reste pas moins que finalement, me semble-t-il, ces documents d'urbanisme en France sont peu des moments de débat sur le devenir de certains types d'espaces. Certes, les personnes qui les mettent en œuvre peuvent essayer de les colorer, peuvent essayer de montrer qu'il y a une intention, il peut y avoir une stratégie, on peut aller plus loin à Bordeaux qu'ailleurs, on peut essayer d'en faire aussi un moment de débat et de prise de conscience de quelque chose qui évolue. Mais finalement, je trouvais qu'on a peu peut-être de plus comme instrument stratégique, hein, de mise en débat du devenir des centres-villes. Et peut-être que dans d'autres contextes, dans des contextes où la question de la patrimonialisation est peut-être moins évidente, parce que on est peut-être sur des valeurs d'ancienneté différentes, à ce moment-là, il y a là un débat sur doit-on protéger, doit-on pas protéger, parce que la possibilité de ne pas protéger existe, et que dans nos contextes très marqués par un référentiel très fort, sauf sur certains éléments, bien sûr, ces éléments qui sont limites, qui sont souvent très intéressants pour savoir si on va plus loin, si on considère, si on protège tel type de construction vernaculaire. Ces éléments existent, mais peut-être qu'il faut les chercher d'une façon très pointue. Hein, alors que dans d'autres contextes, cette idée du débat, de la participation liée à un document qui est essentiellement un document stratégique sur que faire du centre-ville est peut-être plus présent. Hein, et donc nos plus, finalement, tels qu'on les saisit dans nos travaux, dans nos analyses, sont essentiellement à partir de quels outils on met en place pour protéger plus ou moins d'une façon plus ou moins efficace, pour aller un peu plus loin dans le... Mais on est assez loin, me semble-t-il, de ce moment de mise en débat. On est même assez loin, on l'a vu aussi, de la participation. Alors, il se trouve qu'en France, on n'est peut-être pas aussi avancé qu'au Québec en général sur la notion de participation ou sa mise en œuvre, mais je trouve que quand même, mais vous l'avez noté, ça a été noté, je ne sais plus par qui, en comparaison avec, avec la question environnementale, la façon dont on parle de la planification patrimoniale est très très peu participative, même peu pour marquer son absence. Alors que dans le domaine environnemental, me semble-t-il, cette question est plus forte. Mais bon, ça, on pourrait peut-être poser la question autrement que comme une affirmation. Hein, ça avait déjà été noté tout à l'heure. C'est peut-être une hypothèse. Ah, mais pourquoi le débat sur le patrimoine est peu participatif en dehors de l'injonction patrimoniale, en dehors de l'éducation patrimoniale, en dehors de ce qu'on appelle en France la médiation patrimoniale. L'idée même de médiation patrimoniale, elle n'a aucun sens si on dit que le patrimoine, c'est le moment où une communauté prend conscience de sa mémoire et de son identité. Sauf à dire qu'il faut des professionnels pour diffuser la bonne parole patrimoniale à cette communauté qui aurait besoin de prendre conscience de son identité. Alors, je radicalise, hein, bien sûr, on n'est pas là, mais néanmoins, encore une fois, où sont les expériences dans le domaine de l'environnement? On peut en lister des dizaines. Où sont les expériences innovantes de participation dans le domaine du patrimoine, de participation dans le domaine du patrimoine qui ne soit pas de la concertation et qui ouvre la possibilité de discuter du devenir d'un espace ou pas? Alors, je radicalise. Je trouve que aussi la confrontation internationale, juste pour finir les trois points que j'ai notés, elle nous permet de radicaliser nos cadres d'interprétation, hein, ce qu'on a dit, de mettre un peu en fragilité, hein, l'idée qui nous apparaît très présente sur peut-on faire confiance au local, et si on confronte, peut-on faire confiance au local pour exister en tant que local, puisque c'est bien ça dans la rhétorique patrimoniale, hein, peut-on faire confiance au local pour exister comme communauté étant capable de se mobiliser en termes d'une mémoire? Alors c'est pas ça en fait, parce que ce dont on parle en termes de patrimoine, ça n'a rien à voir, me semble-t-il. C'est-à-dire, ce dont parlent nos institutions patrimoniales, ce n'est pas la construction d'une communauté à partir d'une mémoire, etc. C'est autre chose. C'est une pratique qui s'est construite d'une façon historique, d'intervention sur des biens, qui se connecte avec l'idéologie du patrimoine, certes, parce qu'on appelle ça du patrimoine, mais c'est assez éloigné. Hein, c'est une technique de saisie des bâtiments anciens, qui me semble très, très déconnecté de cette rhétorique. Enfin, mais ça, encore une fois, c'est une hypothèse. Troisième élément que je voulais signaler est sur la question de qui porte, enfin, comment se constitue le débat sur les professions était intéressant. Mais plus largement, on pourrait le dire sur qu'est-ce que c'est que l'intensité de ce qu'on pourrait appeler un champ patrimonial, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui s'intéressent au patrimoine dans des contextes différents et qui portent l'idée de patrimonialisation. Quelles sont les associations? Quelqu'un a évoqué la question des associations. Est-ce qu'elles sont différentes? Elles sont plus présentes? Est-ce que l'État leur donne une place suffisante? Est-ce que le patrimoine ne serait, et on a un peu l'impression que c'est un peu le cas dans certains moments à Montréal, qu'un des domaines de quelque chose de plus large qui serait la protection du cadre de vie, de l'environnement, etc. Ou est-ce que c'est, comme dans le cas d'autres types d'associations, un regroupement de spécialistes, hein, qu'on voit monter au créneau de spécialistes ou de personnes mobilisées, qu'on voit monter au créneau en France pour défendre l'ABF et pour défendre des éléments très, très pointus, qui sont assez déconnectés, me semble-t-il, d'un mouvement plus large sur le cadre de vie ou pas, ou c'est peut-être le deuxième pied d'un mouvement sur du cadre de vie, mais ça serait intéressant de voir comment ces acteurs existent de façon différente. Et puis j'arrêterai là sur ces quelques commentaires qui sont faits pour susciter des réactions.
Alors, je pense que les acteurs du patrimoine, il y a un mot qu'il faudrait peu à peu faire disparaître de la planification quand on parle de patrimoine, c'est la notion de protection. Tant qu'on parlera de protection, on aura des gens qui seront pour ou contre et qui verront le patrimoine comme un élément hors d'usage, mais qu'on conserve parce que. Il faudrait peu à peu faire évoluer ça. Bien sûr, en dehors des grands monuments nationaux ou des grandes organisations urbaines qui sont des grands moments d'histoire. Bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, dans ce qu'on appelle le patrimoine du quotidien, enfin notre patrimoine, il ne s'agit pas de le protéger, il s'agit de l'entretenir, ce qui n'est pas la même chose du tout. Et pour l'entretenir, il faut que les gens se l'approprient pour en faire un élément de cadre de vie dans lequel ils vont pouvoir simplement être heureux d'y vivre, d'avoir un bien-être. Voilà. Il y a le patrimoine... Il faut l'isoler thermiquement. C'est une très bonne réaction, effectivement. Ben non, justement. Et actuellement, on peut avoir une démarche énergétique positive en s'inspirant justement des anciens savoir-faire. Enfin bon, toujours est-il que pour moi le mot à faire disparaître, à mon avis, c'est à atténuer, c'est le mot protection. On a des outils de protection. Ça c'est des techniques de conservation. Bon, mais pour la planification ne va pas protéger, elle va assurer un entretien et une valorisation de ces espaces patrimoniaux parce qu'ils font partie du cadre de vie, parce que ce sont des ressources. Voilà. Et donc la prise en compte de ces ressources dans les modalités d'identification et dans les modalités de valorisation, eh bien, sont en cours actuellement. Alors, je vois un outil qui est le plan de paysage, mais il y en a bien d'autres. Mais en tout cas, derrière ça, c'est cette notion de valeur territoriale et qui fait partie d'un cadre de vie. Et à partir du moment où on présente aux habitants cette notion de valeur comme étant un élément d'enrichissement et de bien-être pour eux, eh bien, il n'y a plus d'opposition du tout, au contraire. Et quand vous posiez la question de savoir s'il y avait des débats sur le devenir d'espaces historiques, il y en a plein de débats sur les espaces. C'est même le centre même, quand un PLU veut commencer à être un peu, à avoir un langage commun à partager, il commence par quoi ? Par le patrimoine. Comme par hasard, par le patrimoine et par les espaces communs à partager. Parce que ça, c'est une valeur qui va au-delà de clivage politique, qui est une valeur sociétale où les gens, effectivement, se prononcent assez facilement et qui réunit en plus, qui est transgénérationnel par ailleurs. Donc, il y a énormément d'élus qui, au contraire, s'emparent de cette valeur patrimoniale pour en faire un élément de portage de leur stratégie territoriale.
J'avais noté une chose tout à l'heure, quelqu'un dit que le patrimoine est une chance pour la planification. Non, la planification est une chance pour le patrimoine. Et moi, je dirais, est-ce que le patrimoine n'est pas une chance pour la planification pour remplir aujourd'hui, pour prendre la place du débat sur ce que doit être la forme de la ville. Et la seule chose qui fait effectivement consensus, c'est le patrimoine et le maintien de l'existant.
Il y a plein de gens qui veulent réagir, donc moi je vais juste dire qu'au passage, notre sujet de programme de recherche, c'est le PLU patrimonial. J'ai rappelé rapidement hier les conditions de naissance, à la fois, pas de l'expression, mais en tout cas de notre programme de recherche, appuyé sur la rédaction du projet de loi à l'époque. Cela étant, depuis, on a entendu aussi beaucoup d'acteurs, et je ne dis pas que c'est ceux qui sont autour de la table, mais ça pourrait être le cas, qui disent, en fait, on ne doit plus parler de PLU patrimonial. Voilà, c'est une manière de dire que l'affichage patrimoine dans un PLU, j'entends bien, par exemple, ce que vous dites, je me dis, en tant qu'habitant, que, par exemple, que les élus et les services de la collectivité me parlent d'emploi, me parlent de logement, c'est aussi un sujet que je vais comprendre et qui fera, pour moi, peut-être autant consensus que de parler de patrimoine et de paysage, même si, bien sûr, ce sont des objets qu'on peut forcément visualiser. Mais cela étant, si on me dit que demain, dans la ville d'Angers ou de Bordeaux ou de Saint-Nazaire, etc., je suis à peu près certain, dans les 10 ans à venir, d'avoir un emploi et un logement, idéalement une maison sur parcelle, parce que quand je teste mes étudiants à moi, par exemple, et que je leur demande en France, quel type de logement ils veulent pour leur futur, ils veulent encore la maison. Ça, c'est sûr qu'ils n'applaudissent pas des deux mains pour réclamer un appart en duplex dans un semi-collectif paysager. Petite parenthèse pour dire qu'évidemment, on est tous passionnés par le patrimoine autour de la table, mais je pense que aussi dans la vraie vie, c'est pas forcément un sujet si consensuel. Et voilà, bon, alors voilà, j'avais dit que je la gardais pas longtemps, mais...
Non, juste une ou deux réflexions. Moi, j'ai l'impression que ce qui est en train de faire consensus, hein, d'après ce que j'entends, c'est qu'il faut moins de droits. Voilà. Moi, je ramène ça un peu au droit, parce qu'en tant que juriste, évidemment, je me pose la question de la place de la norme dans tout ça, puisque c'est bien ça... Le centre, le point de départ et le point d'aboutissement de la réflexion des juristes. J'ai l'impression que la règle est un peu mise en procès dans tout ça. Ce que je conçois tout à fait, hein, les juristes ne sont pas du tout les défenseurs absolus des règles, au contraire, hein, c'est les premiers à dénoncer l'excès de règles. Donc, parce qu'on ne veut plus de protection, si ce n'est pour les éléments les plus emblématiques. On veut une planification qui n'est pas normative, puisque cette planification évolutive, qui plus est de projet, en faveur du projet, elle ne peut pas être normative. Si elle est évolutive, il faut qu'elle soit fluide. Il ne faut pas que son évolution passe par des procédures, que tout ça soit formalisé. Si elle veut coller à la peau du projet... et des projets qui eux-mêmes évoluent sans cesse, eh bien, il faut faire ça en dehors du droit. Alors, je conçois évidemment cette réflexion, ce mouvement, et je comprends. Sauf qu'en même temps, il y a un paradoxe quand même dans tout ça, parce que, notamment lorsqu'on observe nos PLU et le contenu patrimonial de nos PLU, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la dimension patrimoniale des PLU est de plus en plus conséquente, dense. Donc ça veut dire qu'on fait entrer plus de droits dans le patrimoine. Alors qu'on cherche à faire du mal au patrimoine. Enfin, il y a quand même un paradoxe là-dedans. En même temps, on a l'impression que chacun veut moins de droits. Et puis la réalité, c'est qu'on en fait plus au travers des PLU. Alors est-ce qu'on se trompe de voie ? Ou alors est-ce que finalement, la norme, elle a aussi la vertu, quelques vertus dans tout ça, assurer une sorte de paix sociale, sans norme, finalement plus de patrimoine qui fait projet ou pas projet, puisque on laisse tout ça à l'abandon des intérêts économiques, et puis il n'y a plus d'arbitrage possible. Donc tout ça est un peu déroutant, en tout cas interroge la place de la norme avec ce paradoxe que on veut moins de normes, mais on en fait de plus en plus. Si on en fait de plus en plus, c'est quand même qu'il doit y avoir une raison quelque part, et à nous juristes peut-être de la trouver, enfin à tout le monde d'essayer de résoudre ce paradoxe. Voilà, de plus en plus de normes, et alors que tout le monde en veut de moins en moins. Enfin bon.
Pour être clair, je soulignais une contradiction entre nos plus et toute une série de débats. Je ne prenais pas parti en disant qu'il fallait s'éloigner de la norme, mais simplement pour montrer qu'on était sur deux plans et est-ce qu'on parle bien de la même chose. Voilà.
Pour réussir un bon projet, il faut une règle accessible, claire. Si on veut réussir un projet dans un espace... La base pour concevoir un projet, c'est de proposer au concepteur une règle claire. Ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si on parle de normes. Là, je serais un peu plus prudente, mais de règles, oui. Le PLU... Comment ?
Plus un cahier des charges
qu'une règle. Un cahier des charges, si on veut. Mais en tout cas, au moins une règle simple... qui est accessible et qui permettent de faire comprendre où est l'intérêt général, l'intérêt pas. Bon. Mais donc, la règle, oui, on en a besoin, et il est évident que le PLU, patrimonial ou non, il a besoin de règles. Bon. Après, l'idée, c'est, dans un PLU dit patrimonial, c'est d'intégrer la prise en compte du patrimoine dans la règle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles normes parce qu'on a affaire à un objet qu'on ne connaissait pas avant qui s'appelle patrimoine ? Non. Tout simplement. C'est, il ne faut pas en faire plus parce qu'on parle de patrimoine. Il faut, je pense, être plus...
Je crois que la question est de savoir, en termes de normes, si on veut de la contrainte ou pas. Si on veut de la si on veut pas de contraintes, il faut pas faire de règles.
Demander à nos collègues internationaux, c'est si cette rhétorique du projet, elle est juste un élément du débat en France sur la planification, ou si elle a un sens en vision internationale.
Oui, c'est ce que j'allais dire, je vais peut-être arriver à en placer une. Non, je pense qu'en fait, la question qui débat entre Pascal et Myriam, déjà, il y a une question qui... transversale dans le patrimoine, mais ça depuis que les sites et les MH existent, c'est-à-dire qu'on est sur la notion, et puis l'inventaire et le secteur sauvegardé, c'est on est sur la notion de connaissance ou la notion de réglementation. Les deux coexistent dans le patrimoine, il n'y a pas forcément besoin de les opposer l'une à l'autre, déjà pour commencer, et je pense que la protection, c'est le débat des MH et de l'inventaire, ça a toujours été comme ça, et cette notion-là de vouloir soit faire... recenser un maximum pour connaître finalement et mettre la connaissance à disposition et puis en face protéger l'unicum entre guillemets parce qu'il faut que celui-là reste pour faire mémoire pour les autres. Là, moi c'est par rapport à ce que tu disais Patrice sur la couleur que les professionnels peuvent donner aux documents. C'est là-dessus que ça m'a interpellé, c'est-à-dire je voudrais savoir, et du coup je questionne aussi nos hôtes internationaux, qui est à la manœuvre de vos documents ? C'est-à-dire, qui sont ceux qui rédigent, finalement ? Est-ce que ce sont les architectes ? Est-ce que ce sont des techniciens administratifs ? Est-ce que ce sont... qui écrit ? Enfin, est-ce que vous avez des juristes sur la règle particulièrement ? Parce que, finalement, cette couleur-là, elle est définie par celui qui le rédige aussi, et celui qui a envie de...
La question que peut poser était plus large, était de savoir qui porte la valeur patrimoniale et pourquoi dans certains contextes on se préoccupe d'acceptabilité sociale et dans d'autres on se préoccupe assez peu d'acceptabilité sociale sur cette question-là. C'est peut-être pas une bonne question. Alors, on n'est pas obligé de répondre aux questions. On peut poser les questions. On peut lister les questions. On n'est pas obligé de répondre aux questions.
Vous allez reprendre la parole, mais Fabrice.
Oui, sur l'aspect juridique, je voudrais rajouter une dimension. Je pense que de plus en plus, ceux qui font les textes se protègent, en fait, se prémunissent d'utilisation déviante ou par rapport à ce qu'ils souhaitaient. Ou plus, disons, lâche. Voilà. Je pense qu'il y a trop de règles et de trop précises. On voit bien que les lois ne sont plus des lois, c'est des règlements dans beaucoup de cas. Et le patrimoine n'échappe pas à cette dérive. Hein, la loi LCAP... contient beaucoup trop de règles qui relèvent du règlement. Voilà. Mais je pense que, surtout au niveau local, il y a une sorte de protection contre des dérives de particuliers ou de promoteurs, sachant que, en cas de conflit, la personne va utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc s'il y a une faille... S'il y a un trou, s'il y a une règle qui n'existe pas, on va s'engouffrer dedans, quoi. Alors qu'on pourrait aussi imaginer que les règles qui n'existent pas, on n'a pas à les inventer non plus. Donc je pense qu'il y a cette dimension, malheureusement, qui fait que les textes deviennent beaucoup trop précis.
Oui, c'est vrai que la règle permet de gérer les conflits immédiats autour du patrimoine. Je crois aussi qu'il ne faut pas oublier la dimension temporelle de la norme qui permet de protéger, de préserver, de conserver, je veux dire des gros mots sur le patrimoine, conserver sur le plus long terme. Parce que, oui, le patrimoine doit être apprécié en fonction de son usage ou de sa réutilisation, de sa réaffectation et de l'intérêt qu'il peut avoir pour là où les générations, à un moment donné, ou la génération, ou les générations qui viennent immédiatement ensuite, mais il faut peut-être aussi penser aux autres, peut-être que quelques éléments de patrimoine ont besoin d'être conservés sur le long terme, sur très long terme. Voilà, peut-être qu'il y a des éléments de patrimoine qui ne font pas projet aujourd'hui, mais qui feront peut-être projet plus tard. Une des fonctions de la règle, c'est notamment de conserver, pas évidemment tout conserver, mais conserver sur le long terme, penser aux futures générations.
Si me permite, participo completamente de lo que está diciendo Pascal, pero me temo, es un temor, que lo mismo que nuestras sociedades son líquidas, el derecho del patrimonio va camino de ser un derecho líquido.
Je suis totalement d'accord avec ce que dit Pascal, mais j'ai peur que, dans la même façon que nos sociétés sont des sociétés liquides, et que nous soyons en train d'observer la mise en place d'un droit liquide. D'un droit liquide. Ou d'un droit...
No un derecho duro, hard, pesado, que prohíbe, que obliga. Flexible. Líquido, flexible.
Non, flexible, effectivement, pas un droit qui interdit, etc., mais qui suscite, qui permet. Là, je complète, oui.
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré ici, pendant ces deux jours aussi, dans le détail de ce qu'on a analysé en France. Enfin, on en évoque des éléments au coup par coup. Et bon, ceux qui viennent à nos cothèques ont déjà assisté à quelques présentations. Mais c'est vrai que, par exemple, un certain nombre de PLU, donc tout en repérant du patrimoine local, et je pense que c'est vrai dans d'autres pays, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à cette granulométrie d'analyse. Donc, un certain nombre de PLU font... également une classification interne. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites qui vont peut-être moins se faire dans les nouveaux PLU, PLUI, mais en gros, par exemple, avec du patrimoine 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Ça nous renvoie à nos débats, d'ailleurs, parce que on l'a vu, par exemple, sur certains PLU, le 1 étoile alors, ne comporte aucune prescription. Il est identifié dans les documents graphiques du PLU, mais derrière, il n'y a pas de complément procédural, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas soumis un article, le L151-19, avec ce que ça implique en termes de, d'au moins une déclaration de travaux. Donc c'est pas par exemple le cas, je sais pas pour Bordeaux, mais je sais que c'est pas le cas sur le PLUI d'Angoulême Métropole, cette classification, enfin qui fait la différence d'un point de vue procédural. Mais par exemple sur les PLU de Nantes et de Rennes sortants, puisque ça va changer aussi. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, si vous revenez les 17 et 18 juin 2019 à Angers. Vous saurez tout de ce qu'on a observé, mais ce petit détail pratique là, qui est à la fois un détail donc d'analyse des PLU qu'on a retenu, renvoie vraiment à ce qu'on évoque à l'instant, c'est-à-dire alors à quoi bon rentrer, c'est ce qu'on s'est dit avec l'équipe, à quoi bon rentrer du patrimoine dans un document d'urbanisme dont l'intérêt est qu'il a une valeur juridique, une valeur réglementaire, si c'est pour ne lui attacher aucune prescription. Bon, sauf que, par exemple, dans les jeux d'acteurs aussi, c'est un élément qui servira quand même au service instructeur. C'est-à-dire que même si ce n'est pas opposable, même s'il ne peut pas se fonder sur le repérage d'un patrimoine auquel aucune prescription n'est attachée, ça lui donne quand même des éléments sur la manière. On parlait tout à l'heure un tout petit peu de cette question de la formation des collègues qui sont dans les services instructeurs, qui n'ont pas le temps d'aller sur le terrain, qui ne le connaissent pas quand c'est des grands territoires. Et Leila, il me disait, des fois, c'est sur Google Street qu'ils essaient d'apprécier l'enjeu des travaux qui sont demandés. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on a dit hier, c'est qu'en fait, il y a vraiment des tas de situations très, très, très différentes selon les territoires et que nous, notre portrait robot, c'est la formule qu'on a trouvée avec Mathieu, ça ne va pas être un portrait robot unique, ça va être, allez, on le dit, une photo de classe. Parce qu'au lieu d'avoir un modèle, il n'y a pas un modèle, il y a, voilà. Et alors après, c'était une manière de dire qu'effectivement, même en abordant les choses de façon technique, enfin en voyant ce qui relève ou pas de la protection juridique, moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que cet été, j'ai rarement le nez sur le JO, mais bon, de temps en temps, comme il paraît que je suis prof de droit, vous savez, il y a une loi qui est sortie en France qui s'appelle « Loi pour un État au service d'une société de confiance ». Donc, c'est pas mal comme titre, hein. Ça vaut bien élan, ça c'est sûr, mais « Un État au service d'une société de confiance ». Vous savez, c'est cette loi qui nous reconnaîtra dans certains cas un droit à l'erreur. Oups, j'ai oublié de déclarer les travaux d'agrandissement des éditions d'Actes Sud, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même une manifestation aussi, effectivement, d'une complexité. Je pense que des erreurs de mauvaise foi, il y en aura beaucoup. Des erreurs de bonne foi, il y en a aussi beaucoup. Et on est quand même arrivé à un niveau de complexité juridique dans notre vie quotidienne. Enfin, je veux dire à tous, moi, quand je vois le boulot que doivent faire les services en charge de la planification urbaine pour faire rentrer au chausse-pied tous les enjeux d'un territoire, en faire un document qui soit à la fois conforme aux objectifs politiques des élus, aux besoins, je le dis, hein, chapeau. Et pourtant, il y a des gens qui les embêtent après, en leur mettant des recours dans les pattes. Donc voilà. Donc tout ça, je pense, c'est des symptômes. Je pense que cette question là de la société de confiance, dont on voit bien que au passage, elle est peut-être pas. Là, l'État au service d'une société de confiance, c'est plutôt en pensant aux habitants, aux contribuables et peut-être aux électeurs, et peut-être pas, par exemple, aux collectivités territoriales, à qui peut-être l'État n'accordera pas la même confiance. Mais je pense que ça traduit bien cette espèce de saturation juridique qui est amplifiée par le fait qu'il y a une valse législative en France qui est absolument infernale. Et ce qu'on a entendu aussi, c'est pour parler un peu de ce qu'on a vu dans notre programme de recherche, ce qu'on a entendu, effectivement, c'est des acteurs dire, à la fois, on voudrait aller vers les nouveaux règlements de PLU, qui pourraient être très, très allégés, puisque maintenant, le code de l'urbanisme le permet. Et puis, en même temps, la réalité, c'est que pour le moment, on n'a pas vu de territoire entrer là-dedans. Parce que il y a une appréhension, je pense, de la boîte noire que ça représente. Entre autres sur un plan contentieux. Voilà, donc c'est, enfin, je pense qu'on est sur une période de transition assez longue. On parle beaucoup de transition, mais je pense que du point de vue du droit, je pense qu'on est peut-être sur une période de transition normative. Je me souviens de l'entretien qu'on a fait avec le président de la Fédération des parcs naturels régionaux. Elle est en ligne, Monsieur Weber, je crois que c'est ça. Elle est en ligne sur le site du programme, bon, qui nous a dit, voilà, en Autriche, un règlement de PLU, c'est 3 pages, et puis c'est suffisant. Puis avec ça, on fait tourner une ville. Donc voilà, c'est des... En fait, tout ça, ça fait partie de la... C'est dans la marmite, hein, et je pense que sur l'enjeu patrimonial des PLU, ça n'est qu'un reflet de cette sur-juridicisation possible des territoires, avec voilà, ces mouvements de balancier entre on va très loin dans le détail, finalement on revient... Quelques réflexions.
On a vu qu'on passait de cette notion d'objet à cette notion de valeur. Donc, ma question que je pose à nos amis juristes, c'est comment la règle qui protégeait un objet peut-elle garantir la prise en compte d'une valeur ? Voilà.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Je sais ce que c'est qu'un objet, mais une valeur, parce que le droit a besoin de définir les choses. Si on peut le définir de manière suffisamment précise pour rendre opérationnel le dispositif, parce qu'un dispositif, il a besoin d'être appliqué, le propre de la norme, c'est d'être contraignante, de pouvoir obliger ceux qui sont destinataires de cette règle. Je ne suis pas sûr qu'en utilisant ce genre de concept, c'est comme toute cette tendance qui consiste à remplacer les normes par des objectifs. Tout ça procède de très bonnes intentions et on peut qu'être a priori favorable à cette évolution, en disant ben oui, pourquoi des règles aussi précises, aussi contraignantes dans les PLU ? C'est vrai qu'il y a une sorte de dérive terrifiante, même avec les nouveaux PLU qui voulaient être simplifiés, qui en réalité sont beaucoup plus contraignants. On fait non seulement maintenant des hauteurs maximales, mais on fait des hauteurs minimales. Alors pourquoi pas des objectifs, puisque ce qui compte, c'est effectivement ce vers quoi on tend. Le projet qu'on a imaginé lorsqu'on a conçu le document, sauf que ça, c'est pas très opérationnel. Enfin, les juristes savent que la règle n'atteint pas son objectif, pour le coup. La règle ne sert à rien. La règle, elle est là pour assurer la paix sociale. Or, quand on soumet à la discussion et au débat les conditions de son application, on n'a résolu aucun problème. Les normes de plus en plus précises, elles s'expliquent aussi par ce constat de la très grande difficulté à faire fonctionner toutes les normes qualitatives et encore plus les normes d'objectifs. Mais on va pouvoir l'expérimenter parce que de plus en plus, les PLU devraient utiliser ces objectifs. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça va fonctionner, mais avec la notion de valeur, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on puisse trouver... des définitions, ne serait-ce qu'un cadre de réflexion qui soit suffisamment rigide pour ne pas, pour qu'on ait quelque chose d'opérationnel, quoi, pour qu'on puisse réellement rendre applicable le dispositif qu'on a conçu. Mais si on veut qu'un processus de discussion, de dialogue, à ce moment-là, on le met en dehors, mais alors à ce moment-là, d'accord, tout. Très bien, mais alors en dehors du cadre juridique, parce qu'il n'y a pas besoin de cadre juridique, puisque dans le cadre juridique, ça ne fonctionne pas. Et après tout, on peut faire des cahiers architecturaux,
Et Yana voulait intervenir.
Non, bien, c'est la situation du Brésil, mais je crois que cette question de valeur est très importante et est fondamentale pour la discussion de patrimoine, pour la construction de patrimoine culturel. Et je peux joindre cette question de valeur à la question que Patrice a suscitée sur la absence de le débat sur la question de patrimoine, de la participation sociale, de la faillible participation sociale dans le débat de patrimoine. Né. Au Brésil, je crois que justement la construction de valeur, de la valeur est une construction plutôt technicienne. Ce sont les techniques de patrimoine, les architectes de patrimoine qui vont mettre en valeur le patrimoine. Ils vont donner, ils vont construire la valeur et vont convaincre la population né, qui toutes les valeurs qui sont comprises dans chaque bien. Né? Et la population n'a pas une appropriation d'une manière très claire né? Comme est construit le processus de valorisation de chaque patrimoine. Donc, je crois qu'il y a une distance entre la mise en valeur du patrimoine et comme la manière que la population va s'approprier de chaque patrimoine. Et une autre chose est que justement, cette situation va se produire dans le patrimoine de trois étoiles, né? Le patrimoine plus fort, que sont les patrimoines monumentaux, historiques, né? Le patrimoine comme au Brésil, ils sont classés en 1937. Né, c'est le patrimoine historique. Mais quand nous pouvons observer le patrimoine local, né, la population va être une proximité très forte avec le patrimoine parce qu'elle va exiger au pouvoir public sa patrimonialisation à partir d'une valeur qu'elle-même va construire. Que c'est un processus complètement différent de la construction de patrimonialisation au Brésil au début des années 30. Né? Alors, je mettre en discussion justement la question au Brésil, la construction de valeur. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une construction plus technique, né? Technique d'un savoir technique. Il ne s'agit pas d'un savoir de la citoyenneté, de la communauté, des habitants, des personnes qui elles-mêmes qui vont s'y approprier de chaque bien. C'est ça.
On voit bien que la notion de valeur suscite des débats. Hein. Il ne suffit pas d'affirmer des valeurs, il faut ensuite définir qui porte ces valeurs et quelles sont ces valeurs. Donc tout ça, ce n'est pas adapté à la norme.
Il me semble aussi que la notion de valeur, la valeur patrimoniale qu'on donne à un bien, un ensemble de biens ou quoi que ce soit, elle ne fonctionne pas toute seule, la valeur patrimoniale, elle est toujours mise en regard au projet urbain. Et donc, par exemple, pour prendre des exemples très concrets, si on est dans un cas où on a un foncier qui est très contraint par une autre contrainte, qui peut être une contrainte inondation, je prends toujours cet exemple-là, on n'a rien à perdre à donner de la valeur patrimoniale, puisque de toute façon, quelque part, on ne peut plus rien faire. A contrario, quand on est dans des secteurs à enjeu fort sur la mobilité, un projet urbain très fort, souhaité ou non d'ailleurs par une municipalité ou des acteurs, on réfléchit à deux fois avant de donner une valeur patrimoniale à un objet, et on la met en regard au projet urbain. Et les décisions ne se prennent pas du tout de la même façon sur un même objet en fonction de sa situation réglementaire autre que patrimoniale, pour voir si on lui attache une valeur ou pas. Et là, effectivement, ça dépend des envies des acteurs locaux, y compris les habitants entrent dans le processus, dans une moindre mesure, à mon avis. Ça reste toujours technique, les habitants sur le patrimoine, où ils poussent à la patrimonialisation, en revendiquant du patrimoine, Pour le reste, j'ai plutôt l'impression que c'est l'expert qui va venir dire bah, ça c'est du patrimoine, ça c'est pas du patrimoine, et les habitants auront du mal au contraire à mobiliser en disant ça on veut pas que ce soit du patrimoine, pour nous ça ne représente rien. Si l'inventaire est passé derrière, alors, l'inventaire lui il protège pas, il dit juste, il donne sa valeur, il dit moi regarde mes critères, ça c'est patrimonial. Donc ça pose aussi question sur le rôle des habitants.
Julie, on va éviter peut-être, il ne s'agit pas d'une confrontation avec une question sur une œuvre. Julie.
Non, mais moi, c'était par rapport à... En fait, ça, toutes ces questions, ça fait plusieurs fois que, sur plusieurs interventions, la même question se pose, c'est-à-dire quel est finalement... On parle de participation des habitants. Si on parle de participation des habitants, finalement, à la création, soit d'une mise en valeur, soit d'une protection, soyons jusque-boutistes, la question, c'est de savoir finalement quel est, de quoi on part. Les habitants, ils ont quoi comme socle culturel? Qu'est-ce qu'ils comprennent de la ville? Quelle lecture ils en ont? Et quelle clé de lecture ils en ont? Moi, ça, du coup, ça m'interroge aussi sur vous, étrangers. Pour ma part, dans ma thèse, j'ai travaillé sur le socle culturel des Français et l'enseignement qu'on a à l'école de ce qu'est la ville et de ce qu'est l'histoire urbaine et de ce qu'est le patrimoine. Finalement, nous, on nous l'enseigne aujourd'hui. C'est Versailles, c'est Chambord, c'est des grandes... des grands monuments, et puis l'histoire de France. La ville, on l'aborde sous la forme démographique, sur l'aspect de la densité, sur l'aspect, mais en géographie. Et finalement, la question de la ville ancienne, elle n'est abordée aucunement dans le parcours scolaire d'un enfant jusqu'au bac, y compris même dans l'enseignement supérieur. Pour avoir fait des études d'histoire, avant de m'intéresser à l'histoire urbaine, il fallait que j'aille en spécialité. Et au-delà de ça, finalement, les architectes, eux, pour certaines écoles, heureusement, aujourd'hui, l'ont dans leur parcours, mais c'est encore pas tout à fait ça. Il faut aller à Chaillot, en gros, qui est notre école des architectes du patrimoine, pour toucher à la ville et territoire, et aborder la ville ancienne. Donc je me demande finalement si le participant, qui voudrait donner son avis, dire que voilà, ça ou ça, c'est patrimonial, quel regard il peut porter là-dessus, selon le socle qu'il a. Et du coup, je pose la question, vous, à l'étranger, quel socle culturel vous avez eu à l'école et qu'est-ce qu'on vous a appris? Est-ce que cette idée de ville ancienne, on vous l'a enseignée à un moment donné, ou ce regard, cette éducation au regard, finalement?
Pour donner quelques clés d'interprétation, Julie défend le socle culturel construit par Chaillot et par les ABF comme étant une sorte de chose qui devrait rayonner sur le monde entier et sur la France. Donc,
on ne va pas reprendre le débat de la soutenance, mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais c'est juste pour dire qu'on peut saisir la ville sans avoir fait Chaillot.
Mais dans les débats patrimoniaux chez moi, évidemment, il y a une volonté de donner une base commune avant de discuter, en fait. Toujours. Il y a des éléments de contexte, il y a tout ça qui... Parce qu'on ne peut pas imaginer que tout le monde a un même niveau de connaissance de la ville ancienne, des styles architecturaux, de l'importance de ci, de ça. Donc, évidemment, il y a des gens qui connaissent plus, il y a des gens qui connaissent différemment, il y a des gens... Mais il y a une volonté dans la discussion de mettre à disposition des gens qui veulent discuter, puis c'est pas tout le monde, il y a des gens qui iront pas, puis là on pourrait dire ça, de toute façon votre débat il est biaisé parce que c'est pas l'ensemble de la société qui va, c'est bien ceux qui veulent participer au débat. Donc, mais à partir du moment où on veut participer au débat, l'idée derrière ça c'est de mettre à disposition des gens qui veulent participer des outils pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et apporter leur regard de citoyen et leur regard différent, en fait, aussi sur la ville. C'est-à-dire que l'architecte ou l'urbaniste peut dire « voici le truc et voici pourquoi c'est important » et l'usager de dire « ben voici comment moi je pratique la ville, voici comment moi je pratique ce quartier et voici comment moi j'interprète tout ça ». Et c'est dans ce dialogue, il ne s'agit pas de dire l'un va l'emporter sur l'autre dans une joute oratoire, mais c'est de mettre en commun ces représentations de la ville et de l'espace et de l'importance pour tenter de faire ressortir des valeurs, valeurs qui seront ensuite transposées, hein, parce qu'il s'agit juste... Il ne s'agit pas de dire voici des valeurs, tentons de conserver des valeurs, mais il s'agit d'associer ces valeurs à des éléments caractéristiques, donc à les fixer, à dire, bon, OK, valeurs historiques, comment elles s'incarnent, comment elles se voient et comment je puis transformer et conserver cette valeur-là. Parce que conserver la valeur historique, bravo, là, mais c'est compliqué. Donc, il faut l'ancrer dans quelque chose de précis, dans l'élément caractéristique, en fait. Et c'est la même chose pour l'idée des objectifs. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif parce que c'est inatteignable. Il s'agit, en parallèle aux objectifs, de dire, ben voici les variables, voici les réalisations qui doivent être atteintes pour dire que l'objectif a été atteint dans 5 ans, dans tant d'années, quitte à modifier les objectifs, ou pas les objectifs, mais les réalisations, pour que 5 ans plus tard, on puisse dire, oui, on a atteint l'objectif ou on ne l'a pas atteint à cause de toutes sortes de raisons. Mais évidemment, il faut être capable de calculer, en quelque sorte, parce que sinon, 5 ans plus tard, est-ce qu'on a atteint l'objectif? C'est encore là, ça serait une joute oratoire infinie, en fait. Mais bon, voilà.
Et il me reste à vous remercier, à remercier nos invités internationaux.
On peut applaudir une dernière fois.
Qu'on peut applaudir une dernière fois.